Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans.
Je m'appelle Fiona et j'en ai 19.
Bonjour, je suis Zeynep, j'ai 18 ans.
Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans.
Bonjour, je m'appelle Catherine.
Dimitri, 29 ans.
Bonjour, je m'appelle Axel et j'ai 19 ans.
Bonjour, Guillaume, 44 ans.
Alors merci à vous de répondre à nos questions. Alors est-ce que vous voudriez nous confier un souvenir, pas forcément politique, d'une soirée d'élection présidentielle ?
J'ai le souvenir par exemple quand Arlette Laguiller en 1995 a eu 5% des voix, et plus de 5% des voix, et a appelé à construire un parti de la classe ouvrière, des petites gens, pour que face à la politique des riches, qui eux ont une politique pour défendre leurs intérêts, eh bien il faut que les plus pauvres aient eux aussi une politique pour défendre leurs intérêts.
Alors c'est un souvenir totalement politique, parce que c'était en 1988, et j'avais donc 14 ans, et mon père faisait partie un petit peu du comité d'organisation départemental, c'était dans les Landes, de la campagne présidentielle d'Antoine Vechter, candidat des Verts à l'élection présidentielle. Et donc on a passé quelques semaines à coller des affiches, et donc j'ai des souvenirs de ça. J'avais déjà fait des séances de collage d'affiches avec mon père, mais ça fait partie des souvenirs aussi familiaux, très intimes, enfin voilà, de partir avec une vieille voiture, des bidons de colle, et de faire du collage amateur, jamais sauvage, toujours sur les panneaux officiels. Et moi, je faisais le copilote, à savoir que mon père, et moi, je faisais le copilote, et je lui disais quand il fallait tourner pour aller dans tel ou tel petit village, tout ça. Donc, c'est des bons souvenirs. C'est vraiment des souvenirs familiaux, biographiques.
Ben moi, de toute façon, j'ai participé à toutes les campagnes depuis pas mal d'années, de Arlette Laguiller, aujourd'hui de Nathalie Arthaud. Ce que je constate, c'est que, eh bien, les discussions avec les gens pour parler de leurs difficultés, pour parler de ce qu'ils vivent, et sur la nécessité de changer les choses. Justement, on voit que les choses s'aggravent, tout le monde le perçoit. Et ça, c'est bien que les gens se rendent compte que, effectivement, les politiciens qui se relaient au pouvoir, en fait, mènent tous la même politique. Parfois avec un habillage verbal différent, mais depuis Mitterrand, par exemple, qui a suscité beaucoup d'espoir, eh bien, aujourd'hui, les gens vont de déconvenu en déconvenu. Si aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'abstiennent, c'est bien parce que ils voient que tous ces politiciens ont plein de belles promesses à la bouche avant les élections, et ensuite ils tournent le dos à leurs électeurs.
Enfin, c'est surtout une période d'élection présidentielle parce que j'étais encore en Allemagne, et ma mère avait la nationalité française, et pour voter, comme on était dans une école privée française, ils avaient mis les stands dans notre école, et du coup on était tous partis en famille pour aller voter. C'était, je sais qu'il y avait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à ce moment-là, du coup voilà.
Moi, j'ai pas de souvenir précis d'élection présidentielle. C'est pas quelque chose que je trouve très important et qui m'a marqué précisément. Quoi.
Un souvenir de soirée d'élection présidentielle, c'est vendredi soir, ou je crois que c'est ça, en famille. Du coup, on était sur la petite table du salon, et du coup, on attendait les résultats avec mes parents devant la première chaîne française. Et voilà, c'était un moment de stress, mais aussi c'est un moment que je me rappelle, mais un moment familial, pas forcément politique. C'était pour l'élection, je crois que c'était entre François Hollande et Monsieur Sarkozy, Monsieur le Président Sarkozy.
Moi, il me semble que chez moi, on regardait la télé, normal à cette époque-là. Et j'étais assise avec mes parents sur le canapé, ils regardaient, ils me disaient « bah ouais, c'est bien ce que ça dit, mais c'est pas ce que je veux ». Du coup, bah, je comprenais pas trop non plus et j'ai attendu. Au final, je sais pas trop ce qu'ils ont fait par rapport à ça, mais je sais qu'ils étaient assez dubitatifs sur le sujet.
J'ai pas vraiment de souvenirs, à part que pareil, devant la télé avec mes parents sur le canapé, et puis pas vraiment de réaction spéciale, c'est une info comme une autre, on va dire.
Non.
Moi, en souvenir, je repense au mouvement qu'il y avait eu la première fois que Le Pen est passé au second tour. Le mouvement surtout étudiant à l'époque, qui voulait manifester contre cette idée que Le Pen pouvait passer au second tour.
Univox. Donc là, on a plus des souvenirs de famille, en fait, des souvenirs familiaux. Et vous, puisque vous indiquiez tout à l'heure que vous avez 30 ans, donc peut-être quelques années de plus que les deux jeunes femmes, vous étiez déjà étudiant.
Oui, à l'époque, j'étais étudiant.
Et alors vous étiez mobilisé, vous faisiez partie des étudiants défilants ou...
Je vivais très, dans une campagne très profonde, du coup, non. Malheureusement, à Mont-Saint-Sulpice, il n'y avait pas de grand mouvement social.
Alors, pensez-vous que le vote est un acte décisif, important, ou que l'engagement politique se situe ailleurs ?
Non, moi je pense que, vu comment on s'est battu, nous femmes, pour l'avoir, il y a une vraie importance au vote. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas assez pris en compte et il y a des choses qui devraient être changées, du genre le vote blanc. Clairement, il y a un truc à changer là-dedans, il n'est pas assez pris en compte. Alors que vu le taux qu'il y avait, je crois, il me semble, aux dernières élections, qui était assez important, bah, au final, il ne sert à rien, alors que ça montre vraiment une lassitude de la population et face aux programmes qu'on donne et qui font que ce n'est pas du tout adapté à ce qu'on recherche.
Moi, je pense vraiment que avoir un vote, peu importe qu'il soit blanc ou qu'on choisisse un parti politique, je pense que c'est un acte important, mais c'est aussi un acte citoyen. Parce que ne rien faire, c'est aussi se laisser porter, et la démocratie, c'est aussi participer. Donc je pense qu'il faut voter. Même si le vote, c'est pas forcément représentatif, qu'il y a des défauts. Et pour le moment, on a ça comme arme, et je pense que c'est un moyen important.
Est-ce que vous parlez beaucoup politique en famille ou avec vos amis ?
Je ne parle pas tant que ça de politique avec ma famille et mes amis. Non pas parce que... Enfin, j'ai plus tendance à parler de politique avec des personnes qui ont des idées qui divergent qu'avec mon entourage qui a souvent des idées qui rencontrent un peu les miennes. Parce que de toute manière, je trouve ça plus intéressant de parler avec des gens qui ont des idées différentes, afin de les comprendre et puis de débattre tout simplement. Et voilà.
Non, moi je parle pas du tout de politique parce que je trouve ça inintéressant et c'est pas que ça sert à rien, mais je parle pas du tout de ça, que ce soit en famille ou en ami, avec les amis.
Alors oui, avec les amis, ça arrive. Je crois que la conversation, au sens réellement de la conversation suivie, reprise, a beaucoup gagné les réseaux sociaux, bizarrement. Et c'est vrai que je parle plus de politique avec les gens que je ne vois jamais qu'avec les gens que je vois régulièrement. C'est-à-dire que les gens que je vois régulièrement en dehors des réseaux sociaux, c'est la conversation politique, quand elle se présente, elle se fait en live, en quelque sorte. Mais sinon, c'est surtout avec mon fils aîné que je parle énormément de politique, parce qu'il est complètement dedans, tombé dedans. C'est pas un regret, je pense pas que j'ai raté mon éducation là-dessus, d'ailleurs. Mais donc voilà, donc on parle beaucoup de politique, on n'est jamais d'accord, d'ailleurs, mais bon. On est d'accord sur l'essentiel, ce qui veut dire que dans la conversation, on n'est jamais d'accord sur rien, bien sûr.
Jamais.
Pourquoi ?
Parce que, personnellement, ça m'intéresse pas, je le comprends pas, pas tout. Enfin, je ne me suis jamais vraiment intéressée non plus, mais c'est parce que je pense que ça me définit pas non plus. Je veux dire, quand ce sera le moment de le faire, peut-être. Mais non, je ne me base pas là-dessus pour parler avec mes amis.
Avec mes amis, j'en parle pas vraiment, mais avec mes parents, beaucoup. Parce que je pense que c'est important qu'on sache dans quel système on vit et quelles en sont les règles, quels en sont les personnages. Et du coup, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de critiquer ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif.
Je suis d'accord.
C'est hyper important, je pense, totalement.
Pour ma part, ma compagne étant professeur, je suis entouré de profs assez constamment. Du coup, pendant la bière du vendredi soir, ça parle régulièrement politique, et surtout au niveau de l'éducation. Mais on comprend très vite de quel côté on peut se placer.
Diriez-vous que votre vote, vos opinions politiques sont fortement influencées par votre milieu familial ou votre entourage ?
Oui, totalement. Quand on vient d'une famille ouvrière ou autre, on est plus enclin à voter de gauche, forcément. Et ça me paraît logique dans un développement classique, en fait. À part un changement de statut social, qui permettrait du coup un changement de vision et d'un autre point de vue, on garde le même plus ou moins que nos parents.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, après, c'est parce que, si tu veux, mon père, il vient aussi du milieu ouvrier, et ma mère, elle vient de Paris, si tu veux, elle a plus. Du coup, dans ma famille, c'est un peu, tu penses ce que tu veux, donc tu votes ce que tu veux. Si on n'est pas forcément d'accord entre nous, mais c'est pas grave. On va essayer d'en débattre et de s'expliquer et d'essayer de faire, appuyer son point de vue. Mais du coup, c'est, enfin, je veux dire, si. Il n'y a pas de gravité si tu votes pas pareil, quoi. T'as le droit de penser ce que tu veux ou d'être du côté que tu veux.
Je parlais pas du tout de conséquences au fait de voter autre chose. Je dis que de base, on a plutôt une réflexion, du coup, par exemple, de gauche en fonction de là où on vient. Mais du coup, on peut tout à fait voter extrême droite si on veut, c'est pas la question. La question, c'est du coup, est-ce qu'on est influencé par ce qu'on a vécu, en fait ?
Oui, forcément, mais je veux dire, il n'y a rien qui fait que... si tu as vécu justement d'autres choses que tes parents, rien que parce que du coup, on ne fait plus vraiment partie de la même époque, tu peux du coup être moins influencé par... Tu auras toujours un petit peu d'influence de tes parents. C'est normal, c'est là que tu vis, mais c'est pas obligé que ça le reste, en fait. C'est ça que je veux dire.
Je pense qu'on est fortement influencé par ce que pense notre milieu familial. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement... d'être ouvert et de critiquer, et vraiment de se poser, de prendre du recul et de se dire pour qui je vote, pourquoi, est-ce que vraiment je suis influencée ou pas. Et après, on fait notre choix, mais je pense quand même qu'il y a une forte influence de la famille.
Moi, je pense que le vote ne permet pas de changer les choses, parce que je pense que les décisions se prennent ailleurs, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, je pense que le vote est quand même important, parce que c'est un moment où les gens, on leur demande leur avis.
Est-ce que vous parlez beaucoup de politique avec votre famille et vos amis ?
Oui, parce que je pense que c'est notre vie.
Au fond, est-il dit, le cas n'inspire pas autant de répugnance qu'on affecte d'en témoigner, car il n'est rien dont on s'occupe tant. Il n'est rien qui poursuive autant l'homme, c'est l'ombre qui suit le corps.
Mais qu'est-ce que c'est que cette
matière ? Or, du
caca, c'est de la merde.
On en trouve partout. Chacun en fait, en voit, en sent, en touche, en parle, souvent en écrit. Quelquefois, on lit...
Je viens de terminer votre discours, monsieur le Président.
Alors, qu'est-ce que je dis ?
Eh bien, que tout est foutu, monsieur le Président. Bon.
Et si chacun n'en mange pas, chacun en voudrait manger. C'est sans rétorque, et avouons-le, assez évident, sinon convaincant. Il paraît en effet fort difficile que l'exigence aussi nécessaire et quotidienne du corps puisse être totalement passée sous silence, censurée, et que l'éducation, les bonnes mœurs, aient entretenu ce silence sans l'ombre d'une mauvaise conscience. Quiconque se nourrit se préoccupe à son insu du résultat excrémentiel que cet acte de survie implique. Pour Jeannet et ses amis, la relation au caca s'inscrit dans le cadre d'une morale. Il y a d'un côté les hommes sains qui acceptent sans gêne la nécessité biologique.
La gauche, je l'ai choisie.
Et de l'autre, les hypocrites qui affectent à son égard une répugnance malveillante.
Ceux qui nous accuseraient de vouloir confusquer la République. Je veux répondre que s'il ne l'avait pas trahi, la République, s'il ne l'avait pas abandonné, la République...
Vaguement inquiet peut-être, faussement serein sans doute, le groupe de Jeannet joue la carte du naturel avec une sorte de provocation qui fait sourire et à laquelle on serait tenté de céder comme on céderait devant la séduction de Villon ou Rabelais.
Pour vous, l'élection présidentielle est-elle très différente des autres élections ou est-ce que c'est une élection comme une autre ?
Et oui, je pense que l'élection présidentielle, je pense qu'en France, l'élection présidentielle, c'est une élection très importante parce que on a un peu le côté royaliste français. Le président, c'est une personne importante dans la société et forcément, on se rattache à lui. Mais je pense que faudrait que les élections législatives, mais aussi les élections européennes, aient un impact plus grand dans la société, que les gens se voient plus concernés parce que c'est aussi la démocratie et c'est ce qui nous représente. Donc oui, le président nous représente bien parce qu'on a l'impression que c'est un peu l'allégorie de la France. Mais les députés et les députés européens sont aussi là pour nous représenter et c'est à travers ça que la démocratie vit. Et si on ne le fait pas, c'est aussi une façon de laisser mourir la démocratie et je pense que personne ne veut que la démocratie meure.
Elle est différente parce que je vais faire un peu un truisme ou je sais pas, une formule un peu maligne, mais je crois très fondamentalement à ce que je vais dire, à savoir que l'élection présidentielle, elle est différente des autres parce qu'elle est vraiment théâtralisée et médiatisée d'une manière très particulière, alors que justement ça devrait être la moins importante. Donc elle est presque présentée comme la plus importante, alors qu'elle devrait être la moins importante. C'est-à-dire que si les législatives étaient déconnectées de la présidentielle, on n'aurait pas ces espèces de majorités, soit croupion, soit le petit doigt sur la couture du pantalon, que l'on a de manière encore plus évidente en ce moment. Et si les élections européennes étaient vraiment adossées à un projet européen beaucoup plus clair, avec des institutions européennes peut-être un petit peu moins complexes à comprendre, on se rendrait compte à quel point les élections européennes, qui approchent d'ailleurs, sont plus importantes que l'élection présidentielle. Et donc oui, l'élection présidentielle, elle personnalise, elle médiatise, elle cristallise, et elle est en fait, moi je trouve, moins significative, parce que finalement le président de la République n'est pas si important que ça, ne devrait pas être si important que ça. Voilà.
Ouais, c'est un peu ça. Enfin, je sais pas si on peut dire que le système il est pourri, mais en fait ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font toujours ce qu'ils veulent et ceux qui parlent vraiment, on les écoute pas. Même là avec les gilets jaunes, y a toujours pas de réponse à ce qu'ils demandent, alors que ça fait je sais pas combien de temps ils sont dehors et tout. Donc oui, c'est important de voter parce que c'est la liberté, mais après dans ce système là je sais pas trop.
Dans mon sens, parce que j'ai pas énormément d'expérience, mais je dirais que vu que c'est la seule pour laquelle je vote, forcément elle est spéciale, parce que clairement, moi dans ma petite bourgade, les maires c'est toujours les mêmes, voire c'est des personnes qu'on connaît pas du coup, donc soit tu votes pas parce que tu connais pas, soit tu votes mais parce que c'est le seul que tu connais, donc il n'y a plus vraiment cette... le vrai sens du vote, du « il partage mes opinions donc je le choisis ». Donc là, c'est un peu spécial, mais ça l'est pas parce que c'est la seule que je fais et du coup ça devient habituel.
C'est un peu plus important parce que du coup ça amène une ligne directrice pour les 5 prochaines années. Mais en même temps, il y en a d'autres qui sont aussi importantes, voire autant, voire plus. Par exemple les élections à l'européenne, parce que du coup c'est la même chose à plus grande échelle en fait. C'est une question d'échelle plus que d'importance.
Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les autres élections, elles sont pas aussi mises en avant que celles de la présidentielle. Et elles sont pas aussi bien expliquées dans les enjeux que ça pourrait apporter. Du coup, vu qu'on n'est pas du tout informé sur la question, on se retrouve à du coup pas s'y intéresser et pas avoir envie de toute façon. Donc d'où le fait qu'on vote aussi qu'au présidentiel, parce que il y a énormément de désinformations sur les autres possibilités de choix de vote pour d'autres partis.
Est-ce que vous votez aux élections étudiantes dans la fac ?
Je l'ai fait pour les délégués de ma filière, mais pas pour le reste, parce que pareil, je connaissais pas. Je savais pas ce que ça allait apporter. Je connais pas les conséquences. Les gens se sont pas forcément présentés non plus. Donc j'ai voté pour la personne. Mon délégué, je le connais, je sais ce qu'il m'a apporté, et je l'ai trouvé génial, donc je regrette pas du tout. Mais clairement, pour les délégués de la fac, non. Clairement, non, pas du tout.
Alors oui et non. Forcément, j'ai grandi dans une famille. Comme je vous ai dit, les élections présidentielles, c'était en famille. Mais non, je pense que chacun a plus ou moins son idée propre. Mais je pense que l'important, c'est de débattre entre nous, de partager les idées. Partager les points de vue, même s'ils sont parfois différents, au moins, comme dans toute démocratie, je pense que l'important c'est de parler. Je pense pas qu'il y ait une majorité d'une certaine couleur dans ma famille. Je pense qu'on est à peu près tous dans les mêmes eaux, mais on n'a pas forcément. Il y en a qui sont plus de droite, il y en a qui sont un peu plus de gauche. Je pense que, on s'influence peut-être tous, mais c'est normal vu qu'on parle sans vraiment s'influencer. C'est juste un partage d'idées.
Si on est dans un milieu très aisé, est-ce qu'on fera toujours semblant d'être de gauche ou est-ce qu'on peut vraiment le devenir ?
Du coup, je pense un peu à Mélenchon, à ces personnages-là qui sont plus ou moins de gauche. Vu que la gauche est devenue potentiellement de plus en plus, entre guillemets, bobo, il y a plusieurs types de gauche. Du coup, être vraiment de gauche ou être bobo de gauche, c'est deux visions différentes. La gauche est plus large que être uniquement de gauche, pour moi. Il y a toujours les extrêmes, mais il y a quand même un grand panel entre la gauche et le centre. Et on peut quand même être de gauche et vouloir quelques trucs pour le patronat. Ça se rapproche du centre, mais toujours en respectant en priorité l'humain.
Univox.
Oui, ça remonte au siècle dernier, voire quasiment au siècle d'avant. J'étais étudiant en troisième année ici, et cette année, l'UNEF avait, contrairement à son habitude, décidé de ne pas présenter de liste aux élections étudiantes et d'appeler en fait même à boycotter les élections étudiantes. Donc du coup, avec un de mes amis, on s'est dit que ce serait bien de présenter notre propre liste. Alors on a déposé une liste à deux et on a fabriqué une dizaine de sigles et d'affiches différents, tous plus fantaisistes les uns que les autres. Et le jour de l'élection en question, nous nous sommes présentés, nous avons tenu notre permanence dans les couloirs, masqués, cagoulés, foulardés, avec même un vrai flingue, complètement hors d'usage, je tiens à préciser, qu'on avait avec nous. Et on s'est payé le plaisir de faire des interventions rapides dans des salles de cours, flingue à la main, pour inciter énergiquement nos camarades étudiants et non révolutionnaires à venir voter pour nous. Ça nous a valu des regards et des extrêmement courroucés et des interventions plus qu'extrêmement courroucées de la part des délégués de l'UNEF qui n'acceptaient pas que nous nous livrions à une telle opération de parodie d'élections et de mise en dérision des élections. Voilà, c'était assez drôle. On n'a pas été élu, évidemment, parce qu'on n'a pas atteint le quorum. Et on doit dire qu'on était relativement content de ne pas être élu.
Moi, personnellement, je pense que toutes les élections, c'est la même chose. C'est une caricature de démocratie. On demande aux gens de voter, sauf que les décisions se prennent ailleurs, que ce soit au niveau national ou à l'échelle européenne. Maintenant, je pense que quand même, c'est un moment où les gens s'intéressent un peu plus à ce qui se passe là-haut et y a moyen de discuter et encore une fois de démontrer justement ce que c'est que ce président de la République, ce que ce sont ces députés nationaux, européens, que ça parle. Mais les décisions, elles sont prises au sein d'un appareil administratif et dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ça, jamais on nous demande notre avis là-dessus.
If you wish, I can try to say it in English.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc.
Voir discuter les Persans lorsque l'on est encore imprégné de mentalité européenne est exaspérant et incompréhensible.
Please be silent. Do not disturb me.
Pour eux, la moitié, non, les trois quarts de la vie se passent à parler.
Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français.
France
has elected its president. She selected him after a very democratic and clear campaign.
Parler pour rien, surtout avec de longues formules creuses qui ne veulent rien dire et n'engagent aucune responsabilité.
You, my countrymen, have designated me for this office through a very broad and very popular support.
Si un Japonais supporte des pièces de théâtre 17 ou 18 heures, le persan supporte une discussion pendant le même laps de temps et recommence dès que ses yeux sont ouverts.
If I am elected, it's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations to my unlucky competitor.
Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégré.
Univox. Univox.